Nous allons évidemment continuer cet après-midi avec maintenant une présentation d'un exemple de copilotage, le comité adolescent des Bouches-du-Rhône. Et j'invite à nous rejoindre le docteur Christine Chaffaut et le docteur Guillaume Bronsard, ainsi que docteur Muller, évidemment, qui peut se remettre à sa place. J'ai oublié de vous présenter, veuillez m'excuser. Docteur Christine Chaffaut est médecin inspecteur de l'ARS PACA et le docteur Guillaume Bronsard est le médecin. Alors, je ne sais pas, peut-être directeur, je ne sais pas, de la maison des adolescents du conseil départemental. C'est ça ?
C'est Marseille.
Et c'est à Marseille. On va l'entendre par l'accent, peut-être, non ? Non, même pas. Bon, tant pis.
Merci. Bonjour, oui, je suis. Donc Guillaume Bronsard, je suis pédopsychiatre à Marseille, donc effectivement. Et je dirige un CMPP, une maison de l'adolescent, et un petit dispositif mixte, soins et hébergement, qui ont la particularité, la bizarrerie d'être sous tutelle du Conseil général. Donc je prends au mot notre collègue Luc Charpentier, qui était étonné, effaré, du fait que dans le Pas-de-Calais, un service de psychiatrie pouvait marquer « Méfie-toi de l'ASE et de la PJJ ». Mais honnêtement, quand on ne les connaît pas, Luc, où il est ? Ouais, il est là. Quand on ne les connaît pas, Luc, honnêtement, la méfiance paraît assez naturelle, puisque la plupart d'entre nous ont quand même vécu des situations de mois et de mois d'enfants de l'ASE, avec ou pas une main levée, de l'enfant de la PJJ, que la psychiatrie devait seule s'occuper. Alors, le fait d'être au Conseil général m'a contraint, et c'était bien dit par mes collègues, pour aller rencontrer les autres, il faut quand même une petite poussée, d'abord une contrainte. Alors la première, chez moi, c'était que j'avais le même payeur, j'avais le même employeur, le Conseil général, etc. Donc je suis devenu progressivement, lentement, ami de l'ASE. C'est énorme. De la PJJ, ça a pris plus de temps, mais tu vois qu'on y est arrivé quand même. Dans ce cadre-là, qui part de façon un peu grossière, vous le voyez, on a élaboré ce que ma collègue Christine Chaffaut va détailler tout à l'heure, un comité départemental de suivi des dispositifs de prise en charge d'adolescents présentant des troubles psychiatriques ou du comportement sévère. C'est indicible, bien entendu, parce que le sujet est en lui-même extrêmement complexe. On n'arrive pas à trouver de mots simples pour expliquer nos difficultés d'articulation. Bien sûr, les collègues de l'ASE l'ont évoqué tout à l'heure, c'est le problème des incasables. Mot détestable, sauf qu'au moins il est simple. Mot détestable, mais au moins tout le monde est d'accord sur de quoi il s'agit. Le problème principal de l'adolescent incasable n'est pas d'avoir pas de cases, mais bien sûr d'en avoir trop. C'est parce que tu as trop de cases que tout le monde a la liberté de dire que c'est pas pour moi. En gros, si tu avais qu'une case, honnêtement, ça serait pas un problème. C'est parce que tu en as plusieurs. Le problème emblématique, caricatural, c'est bien entendu l'adolescent qui relève de trois champs, le sanitaire, le social et le juridique, et pour lequel, c'est la définition pratique, chaque champ considère qu'il relève des deux autres champs que lui. C'est simple, la définition. C'est qu'à partir du moment où tu considères que c'est les autres qui doivent s'en occuper. Sauf que, la plupart du temps, chacun pensant cela a raison. C'est vrai que l'autre doit s'en occuper. Mais comme tout le monde a raison, le blocage arrive. On a isolé au moins deux éléments, un clinique, un affectif, qui peut expliquer nos immenses difficultés. D'abord, les adolescents de l'ASE, en tout cas les adolescents avec une histoire de carence précoce, présentent une symptomatologie extrêmement confuse. Nous avons fait, c'était évoqué, une étude d'épidémiologie pour décrire un petit peu les troubles de ces adolescents, et eh bien le taux de comorbidité, c'est-à-dire de plein de troubles, plein de catégories nosographiques mêlées et mises côte à côte, est majoritaire. La prévalence est élevée. Il y a 5 fois plus de troubles sur les critères ordinaires chez ces enfants. Mais non seulement il y a plus de troubles, mais en plus, ce n'est pas tout à fait les mêmes, puisqu'ils sont tous mélangés. Et en plus, drame, les adolescents de l'ASE, les adolescents carencés, ne se plaignent pas, en tout cas, pas de façon explicite. Les enquêtes que nous avons faites auprès d'eux montrent qu'ils trouvent que ça va très bien. C'est infernal. On le sait qu'ils vont pas bien, mais eux le savent pas. Ou en tout cas, ils nous le disent de façon à ce qu'on puisse pas ou qu'on ne veuille pas de temps en temps le comprendre. Car là où ils rencontrent la psychiatrie principalement, eh bien, c'est les urgences. C'est les urgences au décours de de crise d'agitation et qu'on peut traduire, comme l'a dit la collègue, le collègue tout à l'heure, en crise classique, mais enfin ce n'est jamais qu'une agitation destructrice. Donc le premier problème, la clinique de ces enfants, c'est en gros les troubles sévères de l'attachement qui, comme vous le savez, sont le terrain, le terreau au développement de la totalité des troubles possibles, imaginables, quelle que soit la part biogénétique ou pas des troubles de l'attachement vont aggraver cela. La deuxième, elle est plus évidente, mais il faut vraiment qu'on se la dise, c'est la violence réelle ou supposée. Il n'y a en fait ni à la ZEU, ni à la PJJ, ni à en psychiatrie, des gens qui adorent la violence. En fait, il n'y en a pas. En fait, on n'aime pas ça. En fait, personne n'est tout à fait content d'aller se confronter au corps à corps, physiquement, se prendre quelques gifles, quelques morsures, etc. Enfin, allons. Et on ne peut pas attendre qu'une des trois spécialités soit des violenceologues, voire violenceophiles. Ça serait même suspect. Donc, bien sûr que ce deuxième problème de violence, réelle ou supposée, il suffit qu'elle soit supposée pour que le problème survienne. Évidemment, désorganise tout. Eh bien, lorsque nous faisons nos rencontres autour de ces adolescents, les premières minutes, après on s'habitue, on se rend compte que chacun essaye de catégoriser l'adolescent dans un des trois champs avec une qualification extrêmement simple. Je vous l'ai dit en anglais parce que ça sonne mieux. La question est sont-ils mad, bad ou sad ? Et avec ce mad, bad, sad, vous arrivez à couvrir la totalité des discussions qui n'en finissent jamais, puisque, bien entendu, tu dois être un peu de l'un, un peu de l'autre, et en plus, ça change au cours du temps. Vous comprenez bien que les représentations attachées à ces trois catégories grossières et ridicules, mad, bad, sad, sont à très forte charge affective, ce qui va bien sûr induire une désorganisation très sévère des partenariats. Tous les collègues l'ont dit, le problème du partenariat n'en est pas l'idée. Tendre la main, abattre les cloisons, ouvrir les fenêtres, laisser rentrer le soleil, enfin tout le monde est d'accord, tout le monde veut bien être gentil. Tout le monde veut avoir des amis, sauf le vendredi soir vers 16h30 quand la ZEU appelle l'hôpital. Là, honnêtement, c'est un moment peu propice à développer l'amitié. L'amitié se développera dans d'autres moments que Christine Chaffaut. En gros, le partenariat ne peut se décréter. Tous mes collègues l'ont dit. Le partenariat ne peut que se construire patiemment, modestement, gentiment. Le partenariat ne peut être qu'un système à soigner en permanence de la psychothérapie institutionnelle des années 50. De Tosquelas, il faut passer maintenant à la psychothérapie interinstitutionnelle. Ce n'est pas que les murs qui soignent, qu'il faut soigner pour qu'ils soignent, mais bien sûr, les liens, les partenariats, c'est les conséquences de l'ouverture. Plutôt une bonne idée, l'ouverture, on est d'accord, sauf en cas de crise. Alors, ce comité a été construit dans cette idée. En fait, cela faisait, comme ailleurs, un nombre de cas incalculables où des enfants de la ZEU et de la PJJ restaient des mois et des mois en pédopsychiatrie, en psychiatrie adulte, etc., ce qui était peu supportable pour ses enfants, mais aussi pour nous. Alors, ce comité qui va être présenté est en fait le cadre de rencontre au cours duquel, au sein duquel, nous avons pu élaborer au moins trois éléments qui, je pense, permettent de stabiliser l'affaire, de nous rendre à peu près sympathiques les uns pour les autres, y compris en cas de crise. D'abord, tout le monde l'a dit, mais je le redis, bien sûr, il faut une dynamique de formation et on peut rajouter même de recherche commune. En gros, il va bien falloir que nous soyons à peu près d'accord sur ce que veut dire un diagnostic, à peu près d'accord sur ce que veut dire la ZEU. Enfin, en gros, il va falloir un socle commun de connaissances. Luc Charpentier en a parlé. Le DU adolescent difficile en est un bon exemple et on y est tous passés. Et on s'en est tous sortis. La recherche, ça, c'est plus inhabituel, surtout dans le social. La recherche, c'était une annonce de Myriam David. La recherche est un moyen clinique formidable. C'est en construisant les connaissances ensemble que vous allez avoir un rapprochement conceptuel et relationnel extrêmement fort. Donc la recherche de l'épidémiologie, par exemple, peut très bien s'organiser en collaboration avec la PJJ. Nous l'avons fait. C'est pas si facile quand même que ce que je le dis, car là, les foyers, les lieux de placement justice sont pas tout à fait organisés comme un hôpital quand même. Enfin, les éducateurs sont moins à l'heure, tu vois. Enfin, c'est un peu plus difficile quand même hein, de venir régulièrement. Bon, enfin, peu importe. On y arrive, même si on a à peu près 30% de ce qu'on attend. Ah bon ? À Marseille, en tout cas, oui. Je ne sais pas. En tout cas, donc, la recherche, c'est un moyen absolument indispensable, incontournable, pour faire cette liaison. Le deuxième point, tout le monde l'a évoqué aussi, mais il me semble que c'est intéressant de les voir en enfilade. Le deuxième, c'est évidemment un lieu légitime, reconnu par le soin et par le social, au sein duquel tu peux organiser des prises en charge communes. Ça peut être une maison de l'adolescent, ça peut être un dispositif commun, etc. Les collègues en ont parlé. Mais il faut que les gens qui viennent à ces synthèses soient à la fois légitimes et en position de décider un peu les choses. Une synthèse qui finit par « je vais en référer à ma hiérarchie » ne donne pas grand-chose quand même. Il faudrait que ceux qui viennent aient quand même la capacité de dire « bien, à partir de demain, je le prendrai en hôpital de jour » ou au contraire, « je ne le prendrai pas pour ces raisons », etc. Les lieux de synthèse ne doivent pas être juste un lieu d'échange, c'est un lieu de construction de parcours et que les gens qui y viennent aient ces moyens de mettre en place le parcours. Le troisième, honnêtement, il a été lui aussi évoqué, mais là, je vous les mets en liste, en filet. Le troisième, bien sûr, comment faire sans les fameux lits de crise ? Bien sûr, le risque d'appel d'air, bien sûr que les lits de crise, c'est pas sûr qu'on les utilise que pour des décompensations de schizophrénie, d'accord. Mais il va bien falloir quand même se mettre d'accord si on veut collaborer autour de situations potentiellement au risque sur le plan comportement, sur le plan de la destruction. Encore une fois, réel ou supposé, il faut bien un lieu indiscuté vers lequel tu sais pouvoir te retourner n'importe quelle heure de la nuit ou de quel jour de la... Il me semble que dans les urgences somatiques, on ne demande pas avant de rentrer la preuve que vous soyez vraiment malade. Je suis d'accord que des lits de crise en psychiatrie peuvent recevoir des gens qui n'ont pas de pathologie avérée, stabilisée, claire, etc. Mais peu importe. Je veux bien le débattre avec vous. En tout cas, ça a été un des sujets principaux du débat et ça a quand même pu aboutir. Nous ne sommes pas les seuls responsables de l'aboutissement, mais quand même un peu, à effectivement une unité de crise. Nous étions un des rares départements, enfin un département qui n'en avait...
Vous êtes à la moitié du temps de parole pour vous deux. Hein.
Pardon ?
Vous êtes à la moitié du temps de parole pour vous deux.
Oui, mais on avait décrété deux tiers,
voilà.
Un tiers.
C'était au cas où, c'était au cas où.
J'avais droit un peu plus.
Ah, c'est normal, oui. Certaines déférences.
Bon, parce que... Bon, alors vous allez me faire dire le vrai problème. Parce que le problème général, et ça a été dit par les collègues avant, c'est que d'accord, le partenariat, d'accord, l'ouverture, d'accord, la main tendue, d'accord, tous les cloisons abattus, on fait de la multi, de l'inter, de la transdisciplinarité, tout ce que vous voulez. Mais il y a bien un problème de coordinateur, qui est le mot poli pour qui dirige, quand même. Et là, je l'ouvre, vous voyez quand même mon ouverture personnelle, je l'ouvre, il me semble que la psychiatrie est bien positionnée pour diriger. Mais je veux bien le laisser au débat. Mais à partir du moment où c'est ce système qui est sollicité pour les cas d'urgence grave, il n'est pas trop possible de contourner ça. Mais encore une fois, je veux bien le discuter. Ces trois points, enseignement, recherche commun, lieu de synthèse légitime et reconnu par les partenaires, et trois lits de crise, nous semblent absolument incontournables. Ceci, ça pourra être dans les questions, nous avons ajouté un petit point, une petite nouveauté par ce comité, c'est la création d'un lieu mixte de soins et d'hébergement donc que nous avons organisé avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui en finance quand même les deux tiers, l'ARS en finançant un autre tiers, sur des financements élevés, puisque c'est des prix de journée à 600 euros par jour quand même. Donc c'est quand même correct, ça s'approche de l'hôpital, j'ai oublié, enfin c'est moins que l'hôpital, mais enfin bon, c'est quand même pas... C'est proche de l'hôpital, voilà. Bon, enfin, tu as 25 éduques pour 5 enfants. C'est absolument indispensable, puisqu'il faut un nombre de personnels formés, présents, engagés, très importants. Donc tout ça a été construit lentement. Luc Charpentier l'évoquait, c'est depuis 2009 quand même, ça fait donc 8 ans que cela fonctionne. Je vais passer la parole à ma collègue Christine Chaffaut, avec qui donc nous co-dirigeons, on l'assume. Vous voulez co-animer, c'est gentil, mais c'est co-diriger quand même. Non,
même voire présider.
Présider, non, ça c'était trop. Donc, médecin de l'ARS et le médecin du Conseil général. Voilà, Christine, merci.
Bonjour à tous. Donc c'est toujours très difficile, mais j'ai pris l'habitude de prendre la parole après, après Guillaume. Mais bon, on arrive quand même très facilement à travailler maintenant, hein, parce qu'on se connaît, qu'on est en confiance. Donc j'ai la tâche de vous présenter ce fameux comité ado dont on parle à peu près depuis 20 minutes. Donc, simplement en deux temps. Un premier temps, juste deux minutes pour vous donner un portrait très rapide des Bouches-du-Rhône. Parce qu'on parle de territoire, de territorialité, on parle de zone d'intervention d'établissement, on parle d'initiative à propos de dispositifs expérimentaux sur, alors je ne sais plus, un périmètre géographique. Donc là, on a fait le choix de vous présenter très très rapidement, vous allez voir, le département des Bouches-du-Rhône, le périmètre donc, du département, parce que justement ce comité ado essaie de couvrir l'intégralité de ce territoire. Donc le 13, les Bouches-du-Rhône, c'est un peu plus de 2 millions d'habitants. Ça représente à peu près 40% de la population de la région PACA, qui réside en gros à presque 100%, à 98% en espace urbain, et principalement sur Aix au nord et Marseille au sud, le Grand Marseille, hein, avec un poids prégnant, on va dire. 25% de la population a moins de 20 ans. Ce qui fait que ce département du 13 est plutôt jeune par rapport aux autres départements de la région PACA. Et les situations de vulnérabilité sont importantes. Par exemple, l'indicateur de désavantage social calculé par l'ARS est le deuxième plus dégradé de la région, après le Vaucluse. Un focus rapide maintenant sur les capacités en lit. On en a parlé de façon... itérative. On peut faire trois grands constats sur les Bouches-du-Rhône et bien sûr en tirer des actions à mener. Le premier constat, c'est que l'offre infanto-juvénile est très inégalement répartie en PACA et rapportée à la population. Les Bouches-du-Rhône est le département le moins bien doté. Et ça, quelle que soit la typologie de l'offre. C'est-à-dire, globalement, sur l'ensemble de la psychiatrie infanto-juvénile, par rapport à PACA et aux autres départements, rapportés à la population, sur l'offre publique, stricto sensu, sur l'offre ciblée ado, et sur l'offre publique ciblée ado. Donc, en gros, concrètement, ça fait 61 lits d'hospitalisation temps plein, fléchés adolescents sur les Bouches-du-Rhône. Le deuxième constat, et je n'ai pas entendu le mot privé, enfin, je suis malheureusement arrivée très tardivement en début d'après-midi, un poids très important de l'offre privée sur les Bouches-du-Rhône. En gros, en termes de proportion, pour l'offre publique ado, c'est 40% et 60% pour l'offre privée. C'est l'inverse pour la région PACA. De mémoire, en France, je crois que c'est 75-25, me semble-t-il. Donc un profil très particulier de l'offre en lit ado. Le troisième constat, et c'est quand même un constat qui est un peu plus positif, c'est qu'il y a eu une évolution en 2016, et Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, et puis Luc aussi. En 2016, il y a eu des ouvertures de lits, 5 lits de crise, portés par le CH Édouard Toulouse sur un site de la PHM qui est proche des urgences, et 3 lits d'hospitalisation temps plein sur un autre site, ce qui fait 8 lits avec une ouverture en 2016. Donc en synthèse, les actions à mener, donc c'est assez à la hache, mais on s'y attelle vraiment, c'est augmenter l'offre ado, on en a parlé à plusieurs reprises en termes de capacité, mais travailler aussi sur les types d'hospitalisation, et en particulier l'hospitalisation partielle, hôpital de jour. Le deuxième point, c'est inciter les établissements privés, qui, je vous rappelle, pèse 60% de la capacité en lit ado sur le 13, à participer au réseau. Et j'en reviendrai tout à l'heure, je vous expliquerai la composition de ce fameux comité dont on parle, en particulier pour l'aval de la crise. Et le troisième type d'action, le troisième axe d'action, c'est pérenniser les dispositifs expérimentaux qui marchent, qui existent déjà sur le terrain et qui marchent. On a parlé à plusieurs reprises de dispositifs expérimentaux. Alors, il y en a qui ne marchent pas, donc il faut évaluer. Il y en a qui ne marchent pas, donc il faut savoir arrêter. Et puis d'autres qui marchent. Et là, il faut absolument les pérenniser, même si, un peu comme les ados difficiles, ils n'arrivent pas à rentrer dans les cases réglementaires. Et ça, c'est dans ma maison ARS. Il faut œuvrer pour pouvoir continuer à trouver des financements pour des dispositifs dits expérimentaux qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Par exemple, à titre d'exemple, on a deux dispositifs qui marchent bien. Un dispositif qui est cofinancé d'ailleurs par le conseil départemental et puis l'ARS, qui est ciblé sur les ados de l'ASE. Une unité mobile et de l'hébergement séquentiel. Et puis une autre structure, ça c'est plutôt pour le nord du département, qui est une structure associative qui correspond à une unité mobile, l'Allée Vert. Pour ce qui concerne le profil des ados, on a rapidement, Guillaume a évoqué ces ados difficiles. Ce qui a été fait en 2015, un audit a été réalisé par l'ARS PACA sur le parcours des adolescents hospitalisés en psychiatrie, publique et privée d'ailleurs. Et les constats, les constats n'ont rien d'inhabituel. Ce sont des adolescents en souffrance dans un environnement perturbé. Des familles non traditionnelles, un placement hors du milieu familial souvent, pas toujours, mais aussi des éléments comme l'adoption, des éléments comme la présence de troubles psychiques, on en a parlé aussi, graves dans l'entourage, parents, grands-parents, fratrie, bon, les difficultés scolaires fréquentes et importantes. Voilà, ça c'est pour en gros les profils ados au-delà des adolescents difficiles, hospitalisés sur le 13. En termes de politique, et là je reprends ma casquette ARS, en termes de politique de santé publique menée par l'ARS et sur les 5 axes du programme territorial de santé issu du projet régional de santé qui va se terminer bientôt, un des axes concerne les jeunes pour le 13 hein, qui présentent des troubles psychiques, pathologies psychiatriques avérées, des troubles du comportement sévère. Et c'est important d'avoir cet axe-là présent dans ce document parce que c'est pas, enfin, en tout cas pour moi, ce n'est pas seulement un document. C'est une référence à laquelle je fais systématiquement quand je reviens dans ma maison ARS et que je porte soit des positions, soit des demandes, soit des demandes d'arbitrage, en particulier sur les financements. Donc les travaux en cours sur le PRS 2 se continuent. Ils comportent une partie parcours santé mentale pour PACA, mais aussi bien sûr en déclinaison sur le 13. Avec un axe ado, et on fait très attention à ce que cette partie-là soit très étoffée. Et le dernier point, mais ça a été dit à plusieurs reprises aussi, c'est que ce dispositif de soins, de prévention en pédopsychiatrie, il faut le faire dans un cadre, et tout le monde le dit, mais encore faut-il passer à l'action, dans le cadre d'un réseau élargi à l'ensemble des partenaires. Et en l'occurrence, c'est, me semble-t-il, une des spécificités de la pédopsie, c'est que cette importance du partenariat pédopsie, famille, école, on l'a vu, protection de l'enfance, sociale, justice et médico-sociale. Donc, ce comité adolescent, il est né en 2009. En fait, au départ, c'était la DAS, le DAS 13, puisque l'ARS n'existait pas encore, qui avait, par rapport à cette thématique des adolescents difficiles et des patates chaudes, avait décidé l'organisation de 3 groupes de travail avec des thématiques bien précises, pluri-institutionnelles. Donc, 3 groupes de travail qui se sont réunis régulièrement pour ensuite restituer des propositions d'action par rapport à cette thématique-là. Et ces groupes de travail ont décidé, ont demandé de continuer à exister, en fait, parce qu'ils ont vu eux-mêmes, en travaillant ensemble, ce que ça pouvait apporter. Donc, en dehors de la volonté, on va dire, du DAS, de l'autorité sanitaire, ce groupe, ce fameux comité ado, en raccourci, parce que sinon on ne se souvient jamais du vrai titre, ce comité ado a décidé finalement de se constituer. Et ce sont les membres premiers qui ont fait cette proposition. Il a été décidé à ce moment-là qu'il y aurait une co-animation, un copilotage, et non pas une présidence de ce comité, parce qu'en fait, ce n'est pas une instance réglementaire. Les membres de ce comité sont à la fois là parce qu'ils sont engagés, ils correspondent à des personnes ressources, mais aussi des représentants d'institutions, même s'ils ne sont pas en délégation de pouvoir, ils ont quand même une existence dans leur propre institution. Ça, c'est pour l'historique, la naissance de ce comité. Mais cette historique, cette naissance est importante pour comprendre ce qui s'est passé toutes ces années jusqu'à 2017. Peut-être un point sur...
Ce sera le dernier. Sera le dernier point.
D'accord. La Constitution, c'est intéressant parce que c'est du concret. Et puis finalement, on a l'impression que ça marche quand même. Il y a 7 établissements autorisés en psychiatrie qui sont présents autour de la table, y compris des privés à but lucratif. On essaie d'amener à travailler dans le réseau. Certains le font très bien. Hein. On va y arriver sur l'intégralité. Il y a 4 établissements publics, dont la PHM et puis 3 spécialisés. Il y a aussi des représentants de directeurs d'établissements. Ça, c'est important. Donc il y a des pédopsies, bien sûr, mais il y a aussi des directeurs d'établissements. Ça, c'est important. Alors, il n'y a pas trop de docteurs. On essaie toujours de limiter. Alors, je le dis d'autant plus facilement que je suis médecin. Pas trop de docteurs. 10 médecins sur 20 membres, dont un psychiatre et 6 pédopsies. On les a recomptés. Mais on fait attention. Les champs. Alors ça, c'était pour, on va dire, les fonctions. Les champs, maintenant, qui sont couverts par la présence des membres autour de la table de ce comité. La psychiatrie, bien sûr, on l'a vu, pédopsie, urgence psy, mais aussi le représentant d'un psychiatre libéral. Il y a le conseil départemental, enfance, famille et MDPH, donc le handicap. L'éducation nationale, la PJJ avec Luc. Les aspects de prévention, les dispositifs communs, de droit commun, espace santé jeune, et les 2 MDA. Parce qu'il y a 2 MDA sur le 13, on ne fait jamais comme les autres. Donc il y a la MDA du nord du département, on va dire, et puis la MDA du conseil départemental du 13. Un directeur d'ITEP, et il y a des représentants de ces 2 fameux dispositifs expérimentaux, deux, qui marchent pas mal. Ça, c'est pour la constitution. En termes de fréquence, les réunions, alors il se passe des réunions à peu près toutes les 6 semaines à 8 semaines. Tout le monde se réunit avec un agenda, un tour de table, des actualités et des sujets. Par exemple, en 2016, l'ouverture de l'USIA, qui est l'unité de soins intensifs ado, là, vous savez, les 5 lits de crise, nous a occupés pas mal parce qu'il fallait arriver à créer un réseau partenarial autour de cette unité qui était à la fois très attendue depuis très longtemps. Et ensuite, il y a un copilotage par l'ARS, donc par moi-même, qui représente l'ARS PACA, et puis par le conseil départemental, qui est donc...
Docteur Chaffaut, on va peut-être s'arrêter là pour la présentation, et puis
est-ce que j'ai 30 secondes,
on laissera la salle poser quelques questions. Alors, si vous avez 30 secondes, oui.
Pour donner, en termes de conclusion, pour donner un avis sur, finalement, à quoi ça sert ce truc de comité ado. Sur le sujet des adolescents difficiles, on constate forcément, une fois qu'on l'a mis en place et qu'au bout d'un certain temps, ça marche, on constate la complémentarité des services lorsqu'ils sont soucieux de leur mise en synergie. Et ça, c'est quelque chose à obtenir et ensuite une dynamique qui apparaît. Ça, c'est important. C'est une plateforme d'échange. Il faut un lieu où tous ces membres-là, ces représentants d'institutions ou ces personnes ressources, puissent se retrouver. Il faut qu'il existe ce lieu physiquement. Donc c'est ces réunions toutes les 6 semaines, sachant qu'il se passe beaucoup de choses ensuite entre les réunions. Donc au final, il faut mettre autour de la table un ensemble de professionnels de champs d'action différents. On l'a vu sur la liste des membres. Il faut impliquer tout le monde et ce n'est pas forcément toujours très simple. Il faut un engagement fort. Guillaume a parlé d'engagement. Il faut un engagement fort et il faut du temps. Il faut avoir une animation, et Guillaume dira peut-être ce qu'il pense, il est d'accord avec moi, il faut une animation qui permette l'expression de tous. Une parole libre, ça c'est important, on n'est pas dans une instance réglementaire, il faut que la parole soit libre, le propos est parfois vif, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais il faut une parole libre, et en même temps, il faut que cette animation ait une légitimité. À un moment donné, il faut une régulation du groupe, et cette régulation se fait en concert, avec Guillaume, donc, c'est-à-dire le CD et l'ARS. Donc, ça ne règle pas tout, mais on voit ici l'importance de l'existence de ces articulations, la mise en place et le fonctionnement de ces articulations entre les dispositifs de soins de pédopsie, le dispositif de prévention, le repérage, la famille, l'école, la justice, la protection de l'enfance, le social et le médico-social.
Merci pour cette présentation.